Le débrief 100% hack, le podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1.
On ne fera pas toujours des gros matchs, le contenu ne sera pas toujours top, même si pour moi c'est une garantie. Mais par contre, quand on a cet état d'esprit, on ne craint pas grand-chose.
Hello les amis, comme la météo, le moral au beau fixe pour les Havrais du coach Digard, reboosté après deux victoires et surtout hors de la zone rouge. Ça faisait 4 mois que ça n'était pas arrivé. Après Nantes, après Montpellier et avant un sprint final haletant, on vous propose un club de la presse aujourd'hui pour débriefer et se projeter. J'accueille bien sûr Mathieu Billot de Foot Normand, salut.
Salut à tous.
Luc Gallet du Courrier Cochon est au repos cette semaine. Sur le banc, on est allé chercher d'autres fins connaisseurs du HAC, à commencer par Benoît Donquel, bonjour.
Bonjour à tous.
On peut vous lire dans Paris-Normandie où vous racontez les exploits et les déboires du HAC depuis quelques années maintenant.
Oui, ça fait quelques années.
Il y a deux chiffres et le premier, ce n'est pas un 1.
On peut parler en décennies.
Chacun déduira. Et puis en duplex du sud de la France, puisqu'il a la chance de vivre sous le soleil depuis son départ du Havre en 2019, Bertrand Queneut à nos côtés. Bienvenue Bertrand.
Bonjour à tous, merci. Merci pour l'invitation.
Ancien journaliste à Radio France, désormais indépendant et animateur sur Twitch du Montpellier Sport Club. Forcément, ça va nous intéresser d'avoir votre regard et ça va nous permettre d'évoquer cette dernière victoire du HAC 2-0 au stade de la Mosson. On y file tout de suite, c'est parti pour le débrief 100% HAC, épisode 13.
Si on y croit tout seul, ben, ça sert à rien. Mais quand on sent le club se donner les moyens malgré la situation, beaucoup d'envie, beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité, et quand je vois ce groupe répondre aussi bien, je pense qu'aujourd'hui, il a simplement la récompense qu'il mérite. Mais c'est bien de prendre cette confiance pour attaquer ces 6 derniers matchs ô combien importants.
La confiance donc de l'entraîneur Didier Digard après Nantes 3-2 à domicile fin mars. Victoire donc 2-0 dimanche au stade de la Mosson. But de Yacine Keshta à la 3e minute de jeu, confortée par une frappe spectaculaire d'Abdoulaye Touré. À la 33e, le HAC s'impose sur le terrain de Montpellier malgré une chaleur torride, 27 degrés. D'ailleurs, vous allez nous dire s'il faisait si chaud que ça ou pas pour ceux qui y étaient. Troisième victoire en 4 matchs à l'extérieur face à des Montpelliérains au fond du trou. D'ailleurs, vous n'avez plus de coach Bertrand.
Si, on a un coach. Enfin, il est en train d'arriver. Ah. C'est il y a eu du mouvement évidemment ce week-end. C'était attendu puisque Jean-Louis Gasset avait à plusieurs reprises ces dernières semaines, vu la série ultra négative, souhaité laisser entendre qu'il partirait. Il avait déjà quasiment remis sa démission à Laurent Nicolin, qu'il avait refusé, qui avait dit non, tu restes l'entraîneur de Montpellier. Et puis là, c'était celle de trop, puisque Montpellier n'a plus rien à jouer. Jean-Louis Gasset est rincé, usé, fatigué. Il a pas réussi sa mission. C'était sans doute peine perdue de toute façon. Et comme d'autres avant lui, et donc il prend du recul, il va piloter le sportif malgré tout, et il a jeté son dévolu sur un homme qu'il connaît bien, c'est Zoumana Camara, qui va donc démarrer sa carrière d'entraîneur professionnel à Montpellier, puisque Zoumana Camara arrive aujourd'hui à Montpellier avec un adjoint dans ses bagages qu'il a connu au Paris Saint-Germain également. Et donc Zoumana Camara sera sur le banc face à Angers.
Bertrand, je me permets, c'est juste une petite aparté. Donc du coup, Zoumana Camara sera le coach de Montpellier en Ligue 2 la saison prochaine?
Ouais, absolument. Il va signer. Il est parti pour signer. Faire cette fin de saison et signer 2 ans derrière. Donc c'est le choix de Jean-Louis Gasset. Hein. C'est bien ce qui prouve que Jean-Louis Gasset reste maître à bord du sportif et que c'est lui qui va piloter les gros chantiers, les gros changements et le grand ménage cet été. Mais Zoumana Camara, ouais, c'est son choix. Jeune entraîneur, promotion. Habib Bey pour le BEF, entraîneur plein d'idées, qui a fait ses preuves petit à petit chez les jeunes. Il a d'abord été l'adjoint de plusieurs coachs au Paris Saint-Germain quand il a arrêté sa carrière en 2015. Il y a eu Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel. Ensuite, il a pris les jeunes, il a fait finale et titre avec les U19 il avait quitté le Paris Saint-Germain l'été dernier en disant ça y est, je suis prêt à prendre une équipe professionnelle, et il a été pressenti d'ailleurs au Stade Malherbe de Caen. Ça s'est pas fait, dans d'autres écuries également, et puis finalement c'est Montpellier grâce à Jean-Louis Gasset.
Bertrand, donc Jean-Louis Gasset va piloter le sportif. Alors on va pas dévoiler un secret, mais on en parlait hier matin autour d'un café place de la Comédie. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'apporter
3 ou 4 cafés.
Voilà, 3 ou 4 cafés.
Des cafés, hein, on précise bien.
C'était le matin.
Oui, c'était le matin, ouais, tout à fait. Donc il est là pour apporter un peu de jeunesse, un peu de punch, un peu de fraîcheur, c'est ça, Jean-Louis Gasset.
Il est taquin. Jean-Louis Gasset, alors c'est ce qui divise aujourd'hui là, depuis hier, la communauté montpelliéraine. Tout le monde s'accorde à dire qu'il n'est pas le fautif et le responsable, même s'il a sans doute commis des erreurs. La principale, depuis son retour à Montpellier, c'est sans doute d'avoir naïvement fait confiance aux anciens et aux cadres. Je pense à Wahbi Khazri, qu'il était persuadé de pouvoir relancer par reconnaissance du ventre qu'il espérait chez Wahbi Khazri, qu'il avait entraîné à Saint-Etienne. Ça n'est pas arrivé. Jean-Louis Gasset a opté pour cette méthode-là, qui a été un échec. En revanche, le groupe était déjà extrêmement malade, et surtout Jean-Louis Gasset... on est à Montpellier, donc on ne changera pas profondément l'ADN du club. Des grands changements sont à souhaiter pour que le club reparte de l'avant. En revanche, le club reste ce qu'il est et fait appel, confiance à ses anciens et à ses figures. Jean-Louis Gasset, c'est le fils du fondateur du club avec Louis Nicolin. Il est revenu plusieurs fois à la Paillade. On a compris, et lui aussi, que entraîner, ça n'avait pas fonctionné. En revanche, Laurent Nicolin décide en effet de s'appuyer sur son expertise, son expérience, son réseau, qui lui permet aujourd'hui de faire venir Zoumana Camara. Alors son réseau, il a aussi permis de faire venir Bamo Maïté, qui est un échec en termes de recrutement cet hiver. Mais bon, il est le premier à en être déçu. Après oui, évidemment, certains voudraient qu'on tourne toutes les pages d'un coup et qu'on efface, qu'on fasse table rase du passé, mais Montpellier ne sait pas faire ça, ne veut pas faire ça. Et même si Laurent, je crois et j'espère, Laurent Nicolin a compris qu'il avait commis un certain nombre d'erreurs et qu'il y avait des choses à changer dans ce club, parce que les virages n'avaient pas été pris, parce que le club n'est pas un club moderne comme tente avec ses petits moyens de l'être le HAC avec Bodmer et Roussier, ben... Voilà, Laurent Nicolin a quand même compris qu'il y avait des choses à changer. Après, il s'est déjà ouvert à l'extérieur avec Olivier Dalloglio il y a pas très longtemps. C'était la première fois depuis paire d'années qu'il allait chercher un entraîneur totalement extérieur à la Paillade. Ça avait fonctionné avant de s'écrouler. Je pense qu'il aurait fallu laisser du temps et donner des moyens à Olivier Dalloglio. Je pense que ce sera la principale erreur à ne pas commettre de nouveau. C'est-à-dire que là, Zoumana Camara, si on le fait venir, il faut le laisser s'exprimer, lui permettre de recruter, lui permettre de s'entourer, lui permettre de prendre des décisions. Voilà, il faut pas qu'il soit bridé, parce que sinon ça sert à rien en effet d'aller chercher un entraîneur à l'extérieur.
On y reviendra un peu plus tard, mais là on a parlé non plus, mais ce changement de coach pourrait avoir une importance dans la lutte pour le maintien.
Elle est très sympa cette émission sur Montpellier.
Exactement, ouais. Mais du coup tu nous as ramené le soleil par procuration, c'est très sympa aussi je trouve, hein. Mais non, mais du coup on y reviendra un petit peu plus tard sur le sprint final et les 6 dernières journées, mais c'est pas la même chose je pense d'affronter un Montpellier qui était totalement en déliquescence avec Jean-Louis Gasset à la barre, qui était, comme tu le dis Bertrand, rincé, que d'affronter un club qui va avoir un nouveau coach qui va arriver, mais le coach pas seulement des 6 derniers matchs, mais aussi de la saison prochaine. Donc le coach de la reconstruction.
Ouais, ce que tu veux dire, c'est que ça changera rien à Montpellier, mais ça peut changer la donne pour les adversaires.
Je vais dévoiler, mais je vois qu'il y a Angers, il y a Reims au programme, dernière journée contre Nantes, c'est des concurrents directs au HAC dans le maintien. Ouais. Bah moi, je serais le HAC. Je me dirais que c'est presque une bonne nouvelle ce changement de coach. Je sais pas ce que Benoît t'en parle. Bien sûr, le maintien, c'est d'abord par toi-même, et donc le HAC doit l'acquérir. Mais faut quand même regarder un petit peu ce qui se passe à côté chez les concurrents. Et bah moi, je vois ça plutôt d'un bon œil pour le HAC, ce qui se passe à Montpellier suite à la défaite de dimanche.
Ouais, ça peut redonner un petit peu de vie au groupe. Alors maintenant, est-ce que Zoumana Camara aura les mains libres pour faire le ménage, parce que il se dit quand même joueur qui gangrène le vestiaire. Est-ce que ces cadres-là, Camara va pouvoir les écarter jusqu'à la fin de la saison, ou du moins essayer de les remettre un petit peu dans le sens de la marche et dans le droit chemin pour certains? Est-ce que réellement il va avoir le temps de le faire, ou est-ce que voilà, là il va prendre les 6 prochains matchs juste pour s'installer, prendre la température et puis réfléchir à la reconstruction? Ou est-ce que dès le match du week-end prochain à Angers, je crois, on peut espérer voilà un petit coup de fouet sur les fesses des Montpelliérains?
Pour les supporters, c'est les Marines. Oui. Espérons un petit coup de fouet.
Montpelliérains. Un gros coup de fouet parce que cette équipe est quand même d'une rare faiblesse.
On va peut-être revenir.
Juste en deux mots pour répondre à ça, il y a des joueurs qui forcément, comme à chaque fois quand il y a un changement d'entraîneur vont avoir envie de se montrer, ne serait-ce que pour soit partir ailleurs, soit convaincre le club de leur filer un nouveau contrat ou de voilà. Après aussi parce que peut-être c'est Zoumana Camara et que c'est quand même c'est un nom, donc il y a aussi des jeunes qui, parce que bon, il y a des entraîneurs anciens, vous savez, ils parlent pas trop aux jeunes, quoi. Ça leur parle pas trop. Quand vous ramenez Jean-Louis Gasset, on adore et on respecte et on aime la carrière et on connaît, mais un gamin de 20 ans, je suis pas sûr qu'il sache que Jean-Louis Gasset, en effet, était le fils de Bernard Gasset, que Jean-Louis Gasset a été champion avec Bordeaux. Je suis pas certain. Quand vous ramenez Zoumana Camara, je pense que c'est un petit peu comme avec Bonnemère, comme avec... vous ramenez quand même un nom récent du foot français, du PSG, qui est dans les médias, qui est sur DAZN. Enfin, il y a tout ça. Et ça, je pense que, j'ai tendance à penser que ça va pas réveiller tout le vestiaire, mais ça peut mettre un coup de fouet à certains.
Ah, il y a des gens qui regardent DAZN du coup alors. C'est la première nouvelle.
Il y a même des gens qui y travaillent.
Ah, c'est vrai.
J'ai pas dit qu'ils payaient. Hein.
C'est un autre débat.
On revient peut-être sur ce match de dimanche et sur le hack. Digard avait dit je ne crois pas à ce que dit Jean-Louis Gasset en conférence de presse en disant de toute façon la relégation elle est faite, etc. Est-ce que après le scénario du match, est-ce que ça a enfoncé le clou ou finalement c'était déjà fait et Benoît votre avis là-dessus?
Je pense que Gasset avait raison parce que alors le HAC a fait le job, hein, le HAC s'est imposé à Montpellier, mais il faut quand même reconnaître qu'en face c'était très très faible. Il y a même pas d'envie, cet esprit de combattant. Il y avait pas de pressing. Une fois le premier but encaissé, on a senti qu'il y avait il y avait plus rien quoi. Ça court pas, ça se bat pas, ça presse pas. Il y a rien qui va dans cette équipe. Et effectivement, Gasset disait à la fin du match que ils étaient mauvais et qu'il y avait pas plus faible en Ligue 1 cette saison. J'aurais même tendance à dire qu'il y a sans doute très longtemps qu'on n'a pas vu une équipe aussi faible en Ligue 1. Et pourtant, ouais. En bas de tableau, il y a pas non plus de quoi se rouler par terre quand on voit la qualité du jeu proposé par certaines équipes menacées. Mais là, très honnêtement, c'est une démission. Voilà, on peut parler de démission. Et je pense que Gasset, on se moque un peu de son âge, mais il a quand même un peu de bouteille. Il l'avait senti venir et on a pu même regretter à la mi-temps de ce match que le HAC n'ait pas mis un, deux, voire trois buts de plus, pour plier vraiment l'affaire, parce que à 2-0, on n'est jamais totalement à l'abri. Ouais. Il y a un peu de talent.
Il y a notamment d'ailleurs une ou deux parades de Mathieu Gorgelin qui compte à la fin, parce que effectivement le fameux troisième but aurait pu tout changer. Toujours est-il que pour le HAC, ça fait 3 points. Qui s'ajoute aux 3 points de la semaine d'avant avec cette victoire arrachée dans les ultimes minutes contre Nantes. Et résultat, vous sortez des 3 dernières places pour la première fois depuis fin novembre.
Depuis la victoire à Nantes, en fait.
On évoquera le calendrier un petit peu plus tard, mais ces 2 matchs avaient été cochés, en tout cas par nous, les journalistes, je dis pas que c'était 6 points impératifs, mais on n'en était pas loin. Le HAC a fait le job. Et ça change quand même la façon de voir le sprint final pour le maintien.
Déjà, dans un premier temps, le HAC reprend la main. Voilà, le HAC a son destin en main et il ne dépend plus des résultats.
On peut dire que le HAC prend la main parce que ça fait tellement longtemps qu'ils étaient dans les 3 derniers que... Avant, on parlait presque que de barrage comme perspective pour se sauver.
Tout à fait. Et là, effectivement, il fallait. C'était impératif de gagner à Montpellier. Pour sortir de la zone rouge. Alors là, ça dépendait aussi des résultats des concurrents. Mais c'était impératif aussi parce que derrière il y a du lourd, il y a du très lourd qui est annoncé. Donc fallait faire le plein sur les matchs décisifs, hein, face à Nantes, face à Montpellier. J'aurais même tendance à dire que Rennes peut aussi
faire partie de cette famille-là.
Rennes, on ne sait pas, plus rien à craindre ou vraiment.
C'est une saison qui est quand même un peu compliquée pour les Rennais, donc il faut peut-être en profiter.
C'est pas la saison qu'ils espéraient. Ils viennent de perdre ce week-end. Il y a pas mal de choses. Bertrand, donc t'étais au stade dimanche. Qu'est-ce que tu as pensé de cette prestation havraise du coup?
Je l'ai trouvée très très séduisante et très cohérente en première mi-temps, beaucoup moins en deuxième. Après, ça traduit aussi la blesse dont parlait Benoît de Montpellier, c'est-à-dire qu'une équipe comme Le Havre qui joue sa survie se permette de gérer sur la pelouse d'un soi-disant concurrent direct. C'est dire quand même si en effet par moment Le Havre a peut-être joué un petit peu avec le feu, parce qu'il y a quand même quelques occasions et quelques parades de Gorgelin, mais et puis que Didier Digard est sans doute pas très satisfait au fond de lui de la gestion apparente de cette deuxième mi-temps. Mais,
c'est de la fatigue
ça
à cause de la chaleur.
Ouais, alors il y a eu des pauses fraîcheurs, mais moi j'ai pas trouvé, je sais pas ce qu'en a pensé Benoît, qui en plus supporte mieux le soleil que moi, mais j'ai pas trouvé que la chaleur était écrasante ou étouffante. Après c'est les premières, elles sont toujours, il y a toujours un petit quelque chose, mais c'est pas non plus, enfin il faisait pas 40 degrés hein. Mais non j'ai trouvé cette équipe du Havre, du coup au-delà de la critique sur cette gestion de la deuxième mi-temps et ce que ça dit de la faiblesse de Montpellier, j'ai trouvé l'équipe très cohérente. J'aime bien ce que fait le Havre depuis la montée en Ligue 1, même s'il y a eu en effet cette parenthèse avec ce gros coup de moins bien sur la phase aller, mais sur la phase retour, je la trouve très cohérente. Le Havre a rectifié ce qu'il fallait rectifier avec ses petits moyens, mais qui sont je trouve que on en parlait aussi toujours devant ces 3-4 cafés sans sucre avec Benoît, mais je trouve que le Havre fait ce que Montpellier ne sait pas faire, c'est-à-dire travailler intelligemment et de façon moderne, recruter des états d'esprit plutôt que des anciennes gloires et des talents sur le papier. Et donc à l'arrivée tu sens une cohésion, tu sens tout ce qu'il faut pour un maintien. Alors est-ce qu'ils vont finir par l'acquérir ou pas, on n'en sait rien, mais j'ai plutôt tendance à penser que oui, mais tu sens en tout cas que tous les ingrédients, pour reprendre un terme cher à nos entraîneurs, sont sur la table et sont dans l'assiette, quoi. Donc il y a de la solidarité, il y a de la cohésion, ça se bat, ça lâche rien, ça attaque désormais, ça marque des buts, ce que Montpellier sait pas faire, ça défend sur ce match, on va dire globalement plutôt bien. Enfin voilà, j'aime bien le Havre, j'aime bien cette équipe du Havre qui je crois fait ce qu'elle peut faire de mieux. Tire le maximum avec très peu, encore une fois, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient donné cher de la peau du Havre en début de saison.
Ouais, justement, je vais vous faire écouter un petit son. C'était en zone mixte dimanche après ce match.
J'ai senti un changement après la lourde défaite à Marseille, le recrutement aussi derrière qui a renforcé l'effectif. Ça a fait du bien à tout le monde, ça a changé le mental de toute l'équipe. Beaucoup de travail, et voilà, on enchaîne les matchs, on se connaît de mieux en mieux. C'est ce qui nous permet de prendre des points aujourd'hui et la semaine dernière aussi, et il faut continuer comme ça. C'est multifactoriel, il y a cette claque, il y a le renforcement de l'effectif. Voilà, c'est un enchaînement de choses qui font que les saisons se construisent, et voilà, si elles peuvent bien se finir, ce serait top.
Gauthier Lloris, donc en zone mixte dimanche dans le débrief 100% AC. Justement, cette question, et vous en parliez un petit peu, Bertrand, déjà, on se demandait un petit peu qu'est-ce qui avait changé finalement dans cette équipe. Alors là, on parle d'état d'esprit, on parle de travail, on parle aussi de mercato. Benoît, vous qui suivez assidûment cette équipe du AC, c'est sûr que c'est pas la même équipe depuis la phase retour, on va dire. Est-ce qu'il y a eu un match de bascule? Est-ce que c'est le même que celui qu'évoque Gauthier Lloris, la claque à l'OM?
Oui, on peut parler de ce match à Marseille, parce que plus que mauvais ce soir-là, le Havre avait été ridicule. Et je pense que là, effectivement, dans les têtes, il y a eu comme un déclic. Loïc Négo nous le disait en conférence de presse avant le déplacement à Montpellier. Ils en avaient marre de se faire marcher dessus, de passer pour des imbéciles, pour être poli. Je pense que ce match-là déjà a servi de déclic. Et puis effectivement, durant le mercato d'hiver, il y a eu un petit peu de ménage de fait au sein de l'effectif. Alors on va pas tirer sur des joueurs comme Opéry, comme Targaline, qu'on quand même pas mal donné à cette équipe du Havre, notamment Opéry, qui a été l'un des grands acteurs de l'accession, qui a fait une saison dernière vraiment remarquable pour sa première en Ligue 1. Mais il avait plus envie d'être là. Il avait suffisamment de données. Il avait fait le tour de la question. Il fallait qu'il parte. Targaline, c'est pareil. Alors Targaline, c'est un talent qui nous a un petit peu frustrés parce que souvent malade, souvent blessé. Mmh. Et puis effectivement, en termes d'état d'esprit, on a appris sur la fin que il n'était pas exemplaire, alors qu'il avait peut-être oublié un petit peu vite que le HAC était allé le chercher dans un club anonyme en Turquie où il ne jouait pas, où je crois qu'il y avait des difficultés pour être payé. Enfin bref, le HAC l'a sorti un petit peu du bazar. Mais voilà, il fallait qu'il parte également. Il a trouvé un joli club, tant mieux pour lui. Et puis dans le sens des arrivées, il y a eu quand même deux gamins, notamment Mwanga et Diawara, qui arrivent de Strasbourg et de Lyon. On pouvait aussi penser là que Bah voilà, quitter des clubs qui sont engagés dans la course à l'Europe, venir en fond de cale en Ligue 1 sous le maillot du HAC. On pouvait penser que quelque part ils prendraient ça comme une punition. Et puis finalement, ces gamins font preuve d'un état d'esprit remarquable. Alors actuellement, c'est plus Mwanga qui joue et qui est très très bon. Diawara a fait une belle rentrée à Montpellier. Voilà, et ça joue à pas grand chose finalement. Hein. C'est deux gamins qui jouaient pas beaucoup en Ligue 1. Là, il y en a qu'un qui joue vraiment en ce moment régulièrement. L'équipe a pas été bouleversée, chamboulée. Il y a pas eu de révolution. L'Égyptien, c'est pas Ahmed Hassan, c'est pas le soulier d'or européen, mais c'est quelqu'un qui bosse. Voilà, qui bosse, qui est pas toujours brillant, mais qui va au charbon. Bon, alors après, il y a Faudé Balotouré, qui malheureusement s'est rapidement blessé, il a du mal à revenir. Il y a de la concurrence maintenant sur le côté gauche de la défense. Mais voilà, ça s'est pas joué à grand chose, hein. Il n'y a pas eu 5 recrues top niveau qui sont arrivées cet hiver. Mais ce sont des joueurs qui ont faim, tout simplement. Voilà, et qui ont aussi apporté peut-être un peu de fraîcheur au sein du vestiaire. Et puis voilà, la machine s'est lancée, pas relancée, parce qu'effectivement la phase aller était plutôt fade, mais la machine s'est enfin lancée, peut-être au bon moment. On espère que c'est pas trop tard.
Il y a forcément cette régénération, j'ai envie de dire, de l'effectif, hein, comme c'est la preuve quand même que régulièrement aujourd'hui dans le foot moderne, on peut pas s'appuyer sur le même groupe pendant 2-3 ans, hein, ça s'essouffle très vite. Mais il y a eu quand même des choix, je sais pas si tu peux nous en dire un mot. Donc il y a Mathieu Gorgelin quand même, hein, qui est devenu titulaire dans les cages en lieu et place d'Arthur Desmas. Il y a aussi le passage de la défense à 4 sur la première partie de saison. Didier Digard a quand même plus souvent utilisé un schéma avec 3 centraux et 2 pistons. Voilà, et ce qui dit défense à 4, du coup, dit un milieu à 3, enfin peut-être un joueur de plus au milieu de terrain. Alors, peut-être qu'il a fait ce choix-là aussi parce qu'il avait plus d'armes au milieu de terrain avec Diawara et Mwanga que tu viens de citer. Bon, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites et qui contribue à ce redressement depuis mi-janvier.
Bah déjà le retour de Gorgelin au poste de numéro 1, oui, ça a été un signe fort effectivement, parce que Gorgelin, bon, il a l'expérience, il joue pas sa carrière, hein, sur cette fin de saison, mais et c'est quelqu'un qui est très écouté au sein du vestiaire. C'est quelqu'un de très posé, il monte pas sur la table pour engueuler tout le monde, c'est quelqu'un de très posé, voilà, il a toujours un discours très très lucide sur la situation. Alors c'est pas que Desmas s'est passé totalement au travers de la phase aller, mais il a pas été décisif. Voilà, un club qui joue le maintien, il faut que son gardien lui ramène des points, et Arthur Desmas n'a pas ramené de points, il a même été un peu fébrile sur 2-3 matchs. Voilà, alors est-ce que ça explique le redressement du HAC, je ne sais pas, mais peut-être que les défenseurs ont un petit peu plus confiance actuellement en Mathieu Gorgelin. Effectivement, au milieu de terrain, il y a un petit peu plus de choix, d'options possibles.
De qualité aussi, quand même, faut pas se...
Exactement.
C'est pas dénigrer ceux qui sont partis, mais Junior Mwanga, il joue quand même dans beaucoup d'effectifs de Ligue 1. Alors ouais, peut-être pas dans les 5-6 premiers effectifs aujourd'hui, mais dans les 12 autres, je pense qu'il a sa place sans problème.
Mais un Diawara, il a laissé, il va y retourner à Lyon, mais une belle image. Moi, j'en parlais avec des confrères lyonnais quand il a signé. La saison dernière, quand Lyon était un petit peu à la ramasse, c'est l'un des rares joueurs qui ne se cachait pas. Voilà, il a profité finalement des difficultés de l'OL pour se révéler, pour se montrer, et finalement il confirme au HAC qu'il est taillé effectivement pour la Ligue 1.
Bertrand, ça fait rêver, hein, un mercato réussi, hein.
Ouais, ça fait rêver évidemment. Après oui, ça fait rêver parce que Montpellier a tendance à se cacher derrière on n'a pas d'argent, mais en fait le Havre est l'exemple que sans argent on peut faire un mercato et faire des coups. Après, la différence quand même, c'est que l'effectif de Montpellier est plombé. Alors, les finances sont plombées par des très gros salaires signés ces dernières années. Quand je dis très gros salaires, c'est un euphémisme. Donc, Montpellier a été dans l'obligation de vendre cet hiver parce que les finances sont dans le rouge écarlate. Que Tamari est parti, Nordin est parti, Adams est parti, donc les trois attaquants, et que...
Delors est revenu.
Arrivé, Babou Maïté.
On parlait de mercato réussi, c'est
dire. Delors. Comment ?
Pardon. Je disais Delors est revenu, mais.
Ouais, voilà. Non, mais Delors est revenu. Delors, il était Montpellier pensait pouvoir le relancer. Lui a fait la cour à Montpellier depuis que ça s'est mal passé à Nantes et ensuite il a fait les pieds et des mains pour revenir malgré son départ complètement. peut dire scandaleux ici à Montpellier, c'est la vie de beaucoup et en fait bah ça marche pas. Mais moi ce qui m'agace dans ce recrutement, c'est qu'on dit on n'avait pas d'argent, donc il y avait que Andy Delors. Non, il y avait pas que Andy Delors. Enfin, je veux dire, Le Havre montre qu'il y avait pas que Andy Delors. Il y a plein de clubs qui sont allés recruter cet hiver sans argent. Je prends cet exemple parce qu'il m'a sauté aux yeux l'autre jour, mais bon, enfin, voilà, c'est pas pour faire le footix, mais quand on regarde la demi-finale entre Dunkerque et le PSG, Dunkerque, je crois que le Dunkerque de Dembaba, c'est pas Picsou, quoi. Il est pas dans une piscine de dollars, donc et ils sont allés recruter en prêt le petit Al Saad en Arabie Saoudite, etc. Tout ça pour dire, c'est pas pour dire sur un joueur, je regarde pas un joueur en disant voilà, ça c'est un exemple vaut vérité, mais tout ça pour dire que quand on s'ouvre un peu et qu'on fonctionne pas avec deux ou trois agents comme c'est le cas ici depuis des années, tous les mêmes, toujours les mêmes, toujours le même réseau, bah on est capable de recruter malin, de recruter pas cher, de recruter, de faire des coudes, et ça Montpellier malheureusement sur ce mercato n'a pas su le faire. Après, et pour le coup, ce sont deux flops, deux erreurs imputables en partie aussi à, en effet, Jean-Louis Gasset, qui a cru et qui est le premier déçu aujourd'hui. Delors Meïté, il était persuadé que le discours qu'il lui avait tenu sur sa forme physique, son implication, son envie, ceci, cela, ça allait pouvoir le faire. Et ben Meïté, il était persuadé que l'ayant eu à Marseille, et ben même s'il jouait pas à Marseille, ben voilà, il allait falloir quelques semaines pour le remettre d'aplomb et que ça allait fonctionner. Ben, c'est deux échecs. Donc quand vous perdez votre ligne d'attaque et qu'en plus les deux que vous recrutez sont des flops, ça veut dire qu'en fait vous avez perdu 5 joueurs, donc c'est évidemment compliqué de se maintenir.
Preuve quand même que réussir un mercato et un mercato d'hiver, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Bon, en ce moment notre ami Mathieu Bonnemer est assez discret à travers les médias, mais si bon, on peut dire que le boulot fait en janvier, on ne sait pas ce qui va se passer d'ici la fin de saison, on va revenir après, mais toujours est-il que quand vous êtes une équipe en difficulté, il y a plusieurs leviers. Il y a le levier du changement de coach que Montpellier du coup actionne deux fois dans la même saison, par exemple, pour reprendre l'exemple avec Bertrand. Au Havre, on n'a pas fait ce choix-là. On y reviendra aussi un petit peu plus tard. Par contre, on a fait le choix d'actionner le mercato d'hiver et il a été réussi. J'ai envie de dire, quelle que soit l'issue à la fin de saison, on pourra dire quand même que ce mercato d'hiver, il a contribué à relancer l'équipe du HAC.
Ah bah clairement, clairement. Clairement, c'est... Bah, on peut même dire que depuis ce mercato d'hiver, le HAC dispose d'une équipe, d'une vraie. Parce que ça ne ressemblait pas à grand chose sur la phase aller. Au moindre coup dur, l'équipe jetait l'éponge. Hein. Il y avait pas de révolte. Alors que là, non seulement le mercato a relancé un petit peu cette équipe, mais il y a aussi des matchs qui ont servi. On parlait du match de Marseille, mais à contrario, il y a des matchs qui ont servi aussi de déclic. On peut parler de Lille, voilà, l'exploit à Lille. Mais je pense que surtout le match de Lens, où là, le scénario, il est incroyable. À 0-2, on pense que Le Havre va repartir avec une, voire même plusieurs valises pour mettre tous les buts encaissés. Et à l'arrivée, cette équipe refait surface, de nouveau menée, revient sur Lens, et puis arrive quand même à forcer la décision en fin de rencontre. Et ça, je pense aussi que ça a été un match où les joueurs se sont rendus compte que effectivement il y avait quand même possibilité d'aller faire quelques gros coups, et ces gros coups, ils étaient indispensables pour se sortir de la nasse.
Benoît, j'aimerais bien avoir ton avis quand même sur Didier Digard. C'est un coach dont on parle beaucoup cette saison, qui est critiqué par une partie du public. Je dis bien une partie, hein, c'est pas la totalité, mais en tout cas qui est bon, le nom a été sifflé par une partie du public. Il y a notamment une scène un peu
surréaliste,
j'allais dire lunaire, moi, après Toulouse, hein, si je me trompe pas, ouais. Avec ses
pendant
dernières minutes, c'est vrai, c'est une excellente précision. Aujourd'hui, la direction du club, donc incarné par Jean-Michel Roussier et Mathieu Bonnemer, a décidé de très tôt d'ailleurs, hein, je pense dans la saison, de lui faire confiance jusqu'au bout. Les mauvaises langues diront que c'est plus pour des raisons financières qu'autre chose. Moi, je pense que c'est plus par conviction footballistique et personnelle, parce qu'ils connaissent l'homme et le jeune technicien. Toujours est-il qu'il a résisté à tous ses coups et que là, lui aussi, il contribue à relancer son équipe. J'aimerais bien avoir ton avis, parce que privilège de l'ancienneté, toi, tu l'as connu en tant que joueur.
Ouais, tout à fait.
Donc, ce qui est que peu de gens au Havre peut-être ont connu, y compris dans les tribunes.
Après, tu parlais des mauvaises langues, voilà, qui évoquaient des raisons financières. Il y en a d'autres qui disent que c'est un proche de Mathieu Bonnemère, donc l'amitié ouais. a fait que.
Mais est-ce que c'est pas important aussi de s'apprécier pour bosser ensemble, surtout quand on bosse.
Ça peut être à double tranchant aussi.
Ouais. On va pas trahir de secret, mais bon, ils vivent quasiment ensemble. Parce
je peux vous en parler que c'est à double tranchant en ouais. effet, parce que Montpellier c'est le club des copains, donc.
Ouais, mais est-ce que là ça a pas contribué un peu au fait que on croit en quelqu'un, alors peut-être à tort ou à raison, ça c'est voilà, mais on croit en lui pour différentes raisons. Alors peut-être qu'une des raisons c'est parce que bah, c'est son pote, peut-être, mais on croit en lui, mais et surtout on fait tout pour le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse bien travailler. Après il se passe ce qui se passe, mais moi j'ai toujours dit que j'ai trouvé que ce soutien et cette unité autour, en tout cas cette unité de l'extérieur, hein, je connais pas le club de l'intérieur, mais Roussier, Bonnemère, Digard, sur le cas de Didier Digard, c'était un des atouts numéro un pour se maintenir.
Oui, je pense que c'est ce qui fait la force du HAC actuellement dans cette lutte pour le maintien. Hein. C'est la solidarité. Ils sont vraiment tous soudés. Alors effectivement, à un moment donné, on a pu se dire voilà, il va falloir tenter de changer de coach parce que rien ne fonctionnait. Alors après le côté économique, j'en discutais avec Frédéric Hans là que j'ai eu au téléphone il y a pas très longtemps. Il me disait non, quand un club est aux abois, l'aspect économique ça compte pas.
C'est pas un critère.
Non, on change d'entraîneur. Voilà, on change d'entraîneur parce qu'il faut tenter quelque chose. Mais je pense que voilà, dans la philosophie de jeu de Didier Digard, dans la façon dont il manage ses joueurs, il mène ses séances d'entraînement. Voilà, tout le monde a compris que bah il y avait du boulot. Il y avait beaucoup de boulot, ça bossait dur. Maintenant, faut revenir un petit peu en arrière et puis se rappeler des conditions dans lesquelles Didier Digard a repris ce groupe, hein, c'est-à-dire pas d'argent, pas de recrues, des joueurs à bout de souffle qui avaient plus envie d'être là. Bref, il a vraiment débuté la saison dans des conditions très difficiles. J'avais écrit d'ailleurs une fois que en cas de maintien, la mission serait même plus belle que celle qu'avait menée à bien Lucas Elsner, parce que Lucas, lui, il a vite compris que fallait s'arrêter là, que la mission, pour le coup, était impossible. La première partie de saison lui a donné raison, pas la deuxième. Mais je pense que voilà, le fait d'avoir conservé Didier, pour moi, c'est peut-être l'une des clés de cette deuxième partie de saison remarquable, si on la compare à la première.
Ah bah oui, et puis si on s'arrête là, c'est le jour et la nuit.
Elle est remarquable, et on peut réellement aujourd'hui croire en un maintien du HAC, parce que rien que le fait d'être en vie encore à 6 journées de la fin, c'est un petit exploit.
Ouais. Bertrand, c'est bien envie. On a juste un regard de sudiste sur ce qui s'est passé justement avec ce coach Digard et voilà sur ces derniers mois.
Moi, je comprends les critiques. Enfin, bien sûr, on peut critiquer des choix, on peut critiquer des compos, on peut critiquer des tactiques. Après, j'ai vu passer tellement de coachs là depuis que je suis à Montpellier que la situation est tellement plus grave. Que j'ai pas la sensation qu'il y avait péril en la demeure jusqu'à devoir menacer l'entraîneur au Havre. C'est un regard extérieur, comme tu le dis, mais Benoît suit ça de beaucoup plus près que moi, c'est son quotidien. Mais moi, on a tendance quand même à faire très vite sauter les entraîneurs. Didier Digard, n'oublions pas et n'oubliez pas, et je parle pas à vous, mais aux supporters, qu'il travaille dans le club le moins doté du championnat de France. Que le Havre n'est remonté que l'année dernière. Alors oui, évidemment, passer en plus après Lucas Elsner, qui avait fait des miracles, qui était champion de France de Ligue 2, qui ensuite maintient le club, bah oui, c'est difficile. Mais en fait, j'ai pas Didier Digard, le Havre était pas dernier avec 15 points, quoi. Enfin.
Non, puis on oublie aussi un peu vite que la saison dernière, sur la phase retour, donc avec Lucas Elsner, le HAC est la plus faible équipe de la phase retour avec Metz. Mais Metz est descendu. Donc il a aussi repris une équipe qui était dans une très très mauvaise dynamique. Exactement. Moi, très honnêtement, j'ai pas compris et je comprends toujours pas ce qui s'est passé entre les supporters et Didier Digard, parce que rapidement il y a eu cet épisode face à Toulouse.
Mais est-ce que c'est pas sa communication, son mode de communication?
Oui, peut-être. Il y a peut-être eu un petit délit de sale gueule.
C'est un taiseux. C'est un taiseux. quelqu'un de très volubile, de très...
Oui, mais les supporters ne le découvrent pas. Voilà, non, il était déjà comme ça quand il était joueur.
Et puis c'est toujours plus difficile.
Vas-y.
La deuxième saison en Ligue 1 est souvent plus difficile que la montée, parce que la montée, il y a l'euphorie, vous mettez un nouvel entraîneur. Il doit se faire la saison. C'est la saison de la confirmation. C'est comme pour un footballeur. On dit toujours, c'est pas le premier match. C'est facile de faire un coup d'éclat sur son premier match en professionnel, entre guillemets facile. Mais ensuite, c'est de durer qui est difficile. Donc là, faut durer en Ligue 1. C'est un nouvel entraîneur. Il arrive avec des nouveaux principes de jeu, etc. Il faut que ça se mette en place. Donc il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps et il a pas de moyens.
En tout cas, il en a même moins que la saison dernière, parce que normalement la deuxième saison de Ligue 1, t'as un petit peu plus d'argent, et là pour le coup t'en as un peu moins.
C'est ça. Moi je trouve qu'il aurait mérité un peu plus d'indulgence, mais après encore une fois c'est un regard extérieur et je suis pas au quotidien, j'ai pas sans doute écouté toutes les déclats de Digard, peut-être qu'il y a eu des maladresses, je sais rien de ça, simplement sur la dynamique, le papier, le classement, pour moi, il n'y avait pas de scandale à être là où était le Havre sous Digard sur la phase aller. On est dans le jour d'après et bon, voilà, ça se met en place et preuve en est. En fait, bon, comparé avec le Paris Saint-Germain, mais toute proportion gardée évidemment.
Tu peux.
En Ligue des Champions, je vous rassure.
Ah, tout est possible. Hein. Pas cette année, mais
et Montpellier l'a vu en 2012. Était en Ligue 2 en 2008 et en Ligue des Champions en 2013. Ah. Mais toujours est-il que il faut du temps et parfois ça ne donne rien évidemment, ça veut pas dire que forcément parce que vous donnez du temps vous récoltez les fruits, mais c'est un peu précipité sur Digard peut-être sur la phase aller, comme on s'est un peu précipité chez certains sur Henrique, et in fine c'est juste la preuve que parfois il faut savoir un peu raison garder et que il y avait rien de catastrophique sous Henrique sur la phase aller, et ni l'année dernière, il y avait rien de catastrophique sous Didier Digard. Le club aurait été dernier avec 5 points et 10 défaites d'affilée. Oui, d'accord, là vous changez. Puis si vous sentez que le vestiaire en plus a éclaté, c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure, la situation est beaucoup moins grave au Havre avec moins de moyens qu'à Montpellier aujourd'hui. Donc.
D'autant que les premiers sifflets, si je me rappelle bien, tombent très rapidement, et je me demande si c'est pas avant le coup d'envoi du match face à Montpellier, que c'était la 8e ou 10e journée, je ne sais plus, alors qu'on pouvait penser qu'il y aurait quand même un petit peu de compréhension, un petit peu de patience à l'égard de Digard, parce que c'est quand même quelqu'un du cru, en plus c'est quelqu'un qui a été formé à la KV, c'est quelqu'un qui a été le plus jeune capitaine du HAC sur la scène pro, voilà, il est pas parti comme un voleur, enfin bref, tout a été clean, il a toujours, même quand il était au PSG et dans d'autres clubs, il a toujours affiché, son amour du HAC. Voilà, c'est quelqu'un qui aime ce club. C'est pas un mercenaire, c'est pas quelqu'un qui est juste de passage parce qu'il a rencontré bonne mère à Nice et ils sont devenus potes. Non. Je pense que c'est un bon entraîneur. Moi, encore une fois, je n'ai pas compris. Alors qu'il y ait débat, qu'il y ait des critiques. Voilà, ça fait partie du foot, il n'y aurait pas de débat, il n'y aurait pas de critique, il n'y aurait pas de passion. Il n'y aurait pas de débrief.
C'est au chômage. C'est amusant quand même.
Non, mais voilà, ça fait partie de l'histoire d'une saison, ça fait partie de la carrière d'un entraîneur et d'un joueur, d'être critiqué, de susciter le débat. Mais là, ce qui s'est passé contre Toulouse, on dit lunaire, on dit surréaliste. Moi, j'ai trouvé ça tout simplement scandaleux. Quoi, voilà.
Eh bien, c'est dit. Je vous propose un petit jeu pour terminer, messieurs.
Alors, il n'y aurait pas de jeu.
un petit ping-pong, c'était ça le son dans le débrief 100%. Quelques questions courtes, réponses courtes, ça va être un défi.
Pour un Montpellierin, la patrie des frères Lebrun, c'est pas mal.
C'est un bel hommage, c'est un beau clin d'œil.
C'est pour Bertrand, ça, c'est parfait.
Et c'était l'extrait d'un match entre les deux frères Lebrun, d'ailleurs. Ouais. Quelques questions rapides. Le joueur clé, peut-être, des dernières semaines au HAC, question pour... Benoît, d'abord.
Bah, Abdoulaye Touré, forcément.
Même réponse pour Mathieu.
Oui. Et je vais pas faire court, du coup. Enfin, je vais faire juste deux mots.
Ah oui, tu triches, en
plus.
Ouais,
je triche. D'accord. C'est un peu mon émission, donc je fais ce que je veux. Voilà, c'est comme ça. C'est de la dictature.
8 buts, Abdoulaye Touré, dont le premier but dans le jeu, ou 9 buts.
8 buts.
Premier but dans le jeu ce week-end.
Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un des joueurs les plus réguliers du HAC, même quand ça allait pas trop bien au HAC. Et de l'extérieur, quand j'ai vu Mwenga et Diawara arriver et qu'on se projette un petit peu sur comment le milieu de terrain il va se construire et tout, naïvement, bêtement, je me suis dit, bah tiens, peut-être une des victimes collatérales de ce mercato, ça a été Abdoulaye Touré. Hop, 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 tout faux de mon côté.
C'est le tsar qui...
Voilà, et au contraire, c'est normal, ça c'est vrai pour tout le monde, il joue avec des meilleurs joueurs, en tout cas des joueurs qui sont dans une meilleure dynamique, et donc, comme de par hasard, il est aussi meilleur. Et c'est ça aussi l'intérêt du mercato, c'est que quand vous redynamisez l'équipe avec des joueurs qui sont dans une meilleure dynamique, vous rendez, c'est peut-être vrai aussi pour Yacine Keshta d'ailleurs au demeurant, rendez meilleurs. Et donc c'est là que je trouve que Douaye Touré, c'est vraiment le joueur, mais vraiment sur toute la saison, qui aura un petit peu porté le hack. Je m'arrête là.
Bertrand, un avis sur un joueur qui...
Ah, je croyais qu'on... Je craignais qu'on ne me demande pas mon avis, mais je...
Non, mais qui vous a impressionné lors de ce match.
Ah, moi j'adore Abdoulaye Touré. Je suis fan d'Abdoulaye Touré, j'adore ce genre de joueurs, c'est des joueurs qui seront pas des ballons d'or, mais qui sont des joueurs hyper importants. C'est la sentinelle qui manque à Montpellier depuis 5 ans. Je suis fan de ce genre de joueurs. Benoît doit se rappeler j'y vois des similitudes, il vient de me venir en tête et je sais pas si Benoît sera d'accord avec moi, mais c'est des joueurs, alors c'est peut-être encore un niveau au-dessus, mais c'est Amos Yuga. C'est des joueurs capables à la fois de défendre mais aussi d'attaquer. Alors on a vu qu'il avait pas de pied gauche, mais en revanche on a vu qu'il avait un pied droit. C'est un joueur qui a un volume de jeu énorme. C'est un joueur qui, quand il est bien entouré en plus, se concentre sur ses tâches originelles. Et moi je trouve que ce sont des joueurs parfois un peu travailleurs de l'ombre, quoique il arrive à briller, mais surtout qui font un travail monumental. Et dans ce milieu de terrain à Montpellier, qui est quand même composé de nains jardins, entre guillemets, par la taille, Abdoulaye Touré ferait un bien fou, et Olivier Dalloglio l'avait compris très vite. Il a réclamé ce genre de joueur, exactement ce profil, dès son arrivée, on lui a jamais donné. Et vraiment, moi, je suis fan d'Abdoulaye Touré.
Humainement, c'est quelqu'un de très fiable, et ça aussi, ça a son importance quand t'es parti, quand t'es au charbon qu'il va falloir lutter jusqu'au bout du bout.
Ça rejoint l'état d'esprit dont on parlait Didier Digard en début d'émission. La stat qui retient votre attention, je précise à Bertrand qu'il a droit à un joker, évidemment, si besoin.
Pas de joker. on le fait parler en dernier, il a 30 secondes pour trouver une stat qui...
Je suis sûr que messieurs, vous avez tout ça en tête et Benoît, je crois que d'ailleurs il y avait un papier stat, non, ce matin dans le journal où j'ai cru voir ça passer.
Tout à fait. Sur les deux.
Il a eu un doute. Qu'est-ce que j'ai écrit déjà hier?
Il travaille toujours à Paris-Normandie.
Mais c'est ça. Non, c'est l'efficacité offensive là sur cette phase retour, c'est incroyable, c'est 18 buts inscrits, je crois. Seul le PSG, oui. Monaco et Lyon ont fait mieux. Donc là on tire dans la cour des très très grands. Alors que encore une fois au mercato d'hiver, Ahmed Hassan est arrivé, mais Ahmed n'a marqué que 2 buts pour le moment. Alors quand je dis que, ça reste 2 buts, 2 buts très importants.
Qui compte.
Mais c'est pas la ligne d'attaque qui a été revisitée de fond en comble. Donc encore une fois, c'est une question de confiance. On a Issa Soumaré aussi qui s'est révélé. 18 buts inscrits, alors que si je ne me trompe pas sur la phase aller, c'est 13 buts seulement. Voilà, la clé elle est là, et la clé de la réussite du moment, elle est là.
Mathieu.
J'avais le nombre de points, moi, sur la phase retour que j'avais regardé, donc 15, ce qui vous classe seulement sur la phase retour 11e quand même, avec, c'est surtout ça qui est important, 8 points d'avance sur le barragiste sur cette phase retour qui est Saint-Et. 8 points, c'est énorme, ça veut dire qu'entre Saint-Et et Le Havre, qui sont aujourd'hui concurrents pour le maintien et ou le barrage, depuis le début de la phase retour, il y a 8 points d'écart. J'ai trouvé ça un petit peu colossal.
Mais il y a un calendrier plus favorable, je crois, pour Saint-Etienne sur les derniers matchs. À vérifier. Mais...
Les calendriers, moi, je les ai faits. Honnêtement, tout le monde se mange du lourd. Tout le monde. Et puis, il y a des équipes. Par exemple, est-ce qu'une équipe comme Strasbourg... Aujourd'hui, Strasbourg, c'est l'épouvantail de Ligue 1. Il y a beaucoup de clubs qui vont l'avoir. Par le hack pour clôturer championnat. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui... c'est pareil, on revenait sur Montpellier. Moi, je sais pas si c'est une bonne OP de choper Montpellier qui vient de changer de coach. Vous avez des dynamiques. Angers qui a été un modèle, qui reste sur 4 ou 5 défaites en Ligue 1.
5 défaites d'affilée. Ouais.
Et on a l'impression qu'ils calent au plus mauvais moment, et on se dit pas, est-ce qu'ils vont pas malheureusement choper la place du... C'est, je vais pas dire le mot parce qu'on a décidé de faire une émission polie, j'ai l'impression, avec monsieur Donkel, donc voilà.
Ah bah moi après je... Donc, mais si ma mère écoute, je ne voudrais pas qu'elle me trouve grossier à l'antenne.
Donc les matchs, faut les jouer. Pareil, est-ce que PSG, maintenant qu'ils sont champions, qui a la double confrontation à venir contre Aston Villa, je crois d'ailleurs que le hack, il va juste après le match retour.
Ouais, c'est ça.
C'est compliqué, je veux dire, il y a l'identité de l'adversaire sur le papier, mais après le match, faut le jouer. Et le hack l'a bien aussi montré l'année dernière, parce que je crois que le hack avait pris un point au parc. Et d'ailleurs, 3-3. Aurait dû en prendre 3.
Et aurait pu en prendre 3, ouais. Oui, tout à fait.
Parce que l'égalisation, la dernière seconde,
dernière minute. Oui, dans les dernières minutes, ouais, tout à fait.
On va espérer le même scénario cette fois-ci. Bertrand, une stat ou un joker?
Non, une stat. Ma stat, c'est une question à Benoît.
Ah bah non, c'est pris.
Est-ce que Benoît, la saison 2008-2009 du Havre en Ligue 1, l'année de la descente, a été traumatisante pour toi en termes de résultats, de points, de tout, de chiffres?
Bon, traumatisante. Bon, je m'en suis relevé, hein, quand même. Hein, ça.
Mais 15 ans de Ligue 2 pour s'en relever.
Non, mais c'est cette saison-là. Vas-y.
Non, parce que je vais te rassurer, en fait. Cette saison-là, le Havre termine dernier, c'est une Ligue 1 à 20. Et le Havre termine avec 7 victoires, 26 points et une différence de but de moins 37. Et ben Montpellier est en train de faire pire. Et tous les chiffres de Montpellier actuellement, alors la saison n'est pas finie, il reste 6 matchs, sont quasiment divisés par 2 par rapport à ce qu'avait fait le Havre à cette saison-là. Montpellier est à la moitié de victoires. La moitié de points quasiment, parce qu'on est à 15 et c'était 26. Le Havre avait encaissé 67 buts. Montpellier est à 64, il reste 6 matchs à jouer. Et la différence était de moins 37 et Montpellier est à moins 43. Moins 43 à ce stade de la saison, c'est du jamais vu à part Angers il y a 2 ans au 21e siècle. Donc voilà, ça rassure toutes les lanternes rouges, ma stat du 21e siècle. Rassurez-vous.
Y a pire.
Montpellier fait pire.
Ouais. Mais c'est pas un concours, hein, si je peux me permettre. Enfin, ou alors chacun poursuit ses objectifs, mais bon.
On termine avec une dernière question. Réponse courte. Je vous demande, messieurs, le hack au soir de la 34e journée, maintenu, barragiste ou relégué? Benoît.
Maintenu.
Barragiste.
Et Bertrand?
Barragiste.
Eh ben on verra ce que ça donne. On termine comme d'habitude avec un coup d'œil sur les autres formations du HAC. Les féminines qui sont 8e au classement après leur nul face à Reims fin mars. Reprise du championnat ce week-end après la trêve internationale. Déplacement à Strasbourg qui est 10e. Donc match important. Je ne sais pas si le maintien est tout à fait acquis d'un point de vue statistique.
Il est acquis à 99,9%. Oui. Ouais, non, c'est... L'affaire est dans la boîte.
Une belle remontadac pour les féminines. C'est pas de moi, mais la personne qui m'a soufflé l'expression sur connaîtra. Du côté de la formation en Régional 1, les Havrais de Jair Karam qui perdent la tête de leur poule après une défaite 3-1 face à Bayeux, et puisque Trouville-Deauville a gagné dans le même temps. Voilà, encore du boulot de ce côté-là. Le sourire, en revanche, du côté des U19, victoire capitale 3-1 face au Racing Club de France ce week-end. Succès important dans la course au maintien. Les Havrais qui sont 11e ex aequo en nombre de points avec Valenciennes qui est 10e, et il leur manque a priori une place pour s'assurer le maintien. Et puis chez les U17, les Havrais qui concèdent le nul à Drancy, 2 buts partout, les jeunes Ackman qui sont 4e. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous pour ce club de la presse dans le débrief 100% A, qu'on se retrouve au stade dimanche
à 17h15.
17h15,
on va faire des blagues comme ça, de mauvais horaires s'il vous plaît.
Merci en tout cas Benoît Donquel de Paris Normandie. Pour Bertrand Queneut, ça va être un peu plus compliqué peut-être pour venir,
mais le cœur y sera, et bonne fin de saison évidemment à tous les Havrais.
En tout cas, on vous retrouve dans le Montpellier Sport Club sur Twitch. Merci à tous. On se retrouvera dans 15 jours avec évidemment Luc Gallet du Courrier Cauchois qui sera de retour à nos côtés après cette pause sur le banc. Le débrief 100% hack à écouter sur footnormand.fr, tendanceouest.com, Deezer, Spotify. Fin de partie et à très bientôt.